Alors, vous, docteur Alimi, vous avez dans vos patients des patients qu'on appelle long Covid, longue durée. Ils ont ce qu'on appelle le syndrome post-Covid. Ouais. Qu'est-ce qui vous a poussé à en accueillir plusieurs?
Juste pour précision, docteur Alimi en France, ça n'a pas la même valeur. C'est-à-dire que moi j'ai un diplôme de docteur en chiropraxie aux États-Unis qui n'est pas reconnu en tant que docteur en France. Donc on est reconnu en Suisse, en Angleterre, dans plein de pays européens, mais pas en France.
D'accord. Donc on ne dit pas docteur ici.
Normalement non. D'accord. Mais j'ai un titre de docteur en chiropratique. Ça, légalement, on peut dire c'est docteur en chiropratique, mais il faut dire de quel pays, etc. etc. Donc bon. C'est pas la même chose qu'un médecin, donc pour ne pas
dire de confusion. Vous êtes chiropracteur?
Je suis chiropracteur, j'ai fait une spécialité en neurologie, j'ai fait la chiropractie, c'est 6 années d'études.
Ouais.
Donc c'est aux États-Unis, dans les autres pays, on a un titre de docteur en chiropractie.
J'ai vu ça sur votre site.
J'ai fait 3 ans en plus, j'ai fait une spécialité en neurologie, d'accord. Et voilà.
Qui fait que vous êtes particulièrement sensible, j'imagine, à ces symptômes-là et à ces patients-là.
Oui, en fait, ça a commencé parce que justement, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui avaient des symptômes que je vois sur beaucoup de mes patients, c'est-à-dire des vertiges, des migraines, des douleurs un peu chroniques, des difficultés à récupérer, donc ils ont une fatigue extrême, etc. Et donc, c'est pour ça que je me suis intéressé pour voir qu'est-ce qui peut se passer chez ces personnes et est-ce qu'il y a une possibilité de les aider. Et effectivement, il y a beaucoup de ces patients-là qui ont des problèmes de système nerveux, c'est-à-dire qu'ils ont des maux de tête, ils ont des migraines, ils ont des vertiges, ils ont un état de confusion parfois, manque de concentration. Alors après, il y a des problèmes plus graves, que ce n'est pas du tout mon domaine, ils font des AVC, ils peuvent avoir des hémorragies, etc. Mais je me suis rendu compte que beaucoup de ces symptômes-là, c'est des choses qu'on fait avec des patients et je voulais voir si on peut arriver à faire quelque chose pour eux.
Alors, vous suivez combien de ces patients
J'en ai pas. Alors, j'en ai 3-4 qui sont venus que pour ça. Et j'en ai d'autres patients qui avaient attrapé ça avant, qui étaient parmi mes patients, qui ont eu le Covid et qui ont eu des symptômes qui continuent.
Et vous allez en faire une sorte d'étude? Vous allez en...
Je voudrais bien. Alors, je n'ai pas trop ni le temps ni la capacité de le faire, mais déjà de voir si on peut arriver à les aider un petit peu, c'est ce qu'on arrive à voir, que ça les aide, ça les fait progresser. Et si après, si on peut vraiment se mettre avec un. Alors, je connais des cardiologues, j'ai beaucoup de médecins avec qui on pourrait peut-être faire quelque chose. Après,
oui,
il y a toujours une question prioritaire en ce moment avec la médecine. C'est qu'ils sont beaucoup plus en ce moment sur le fait que sauver des vies et puis essayer de récupérer, de ne pas se dépenser trop pour les autres problèmes, même si c'est peut-être un peu des petits problèmes pour l'instant, mais c'est un peu une question d'urgence d'un côté et puis les symptômes à long terme, pour qui c'est ces personnes-là, c'est pas facile, ça regage quand même pas mal la vie.
C'est très invalidant.
Selon les personnes. Oui, on en a qui peuvent continuer à travailler, qui ont des symptômes, comme des gens qui peuvent avoir des migraines régulières, qui peuvent avoir des douleurs de façon continue. Et il y en a des gens qui sont très, très, très incapacités par ça.
On les appelle, moi je les ai appelés les oubliés du Covid, parce qu'effectivement, ce que vous décriviez, pour l'instant, il y a l'urgence de stopper l'épidémie. Il y a, parce qu'il y a des patients qui ont des symptômes post-Covid qui sont soignés à l'hôpital. Mais ceux-là, c'est une certaine catégorie, hein, c'est pas tout le monde. C'est ceux qui sont passés en service de réa, en soins intensifs. Donc, y en a qui échappent aux mailles du filet, en fait.
Disons, ceux que j'ai eus, d'ailleurs, il n'y en a aucun qui a été hospitalisé, il n'y en a aucun qui a eu la forme grave de Covid. C'est des gens qui racontent qu'ils ont eu comme une sorte de rhume, de grippe forte pendant une semaine, ils étaient un peu alités, etc. Mais ça n'a pas été plus que ça. Donc, ils n'ont pas eu la forme grave. Et la plupart, pareil, ce n'est pas des gens qui avaient une condition préexistante, ils n'avaient pas de maladie, ils n'avaient pas de problème de système immunitaire, ils n'étaient pas vieux, ils n'étaient pas âgés, ils avaient entre 40 et 50 ans, certains étaient sportifs, et puis ils ont attrapé ça, et derrière, oui, il y a des symptômes qui continuent pour certains. Alors, pour certains, c'est continu depuis 6 mois, et pour certains, c'est en cycle. Il y a des moments où ça va un peu mieux, et puis ça reprend, ils ont encore des rechutes. Il y a une de mes patientes qui est américaine qui disait « ça me rappelle un peu la maladie de Lyme ». C'est-à-dire qu'il y a des moments où on voit que ça monte, ça redescend. Et c'est vrai que d'un point de vue symptomatique, parfois c'est un peu ça. Ce n'est pas quelque chose de continu.
Et ceux-là, ils sont un peu tout seuls, à devoir se débrouiller tout seuls dans la rue. S'ils ne tombent pas sur des médecins comme vous, parce que tout le monde... S'ils ne tombent pas sur des praticiens comme vous, parce que tous les médecins ne sont pas capables de les écouter, de les aider.
Ça, je pense qu'il faut vraiment voir avec les patients. Ce n'est pas mon rôle de dire ce qui se passe, et ce qu'ils ont et ce qu'ils n'ont pas. Mais effectivement, beaucoup disent qu'ils ne sont pas compris. Surtout au début, il y en a qui disaient, à qui on disait c'était... C'était dans la tête, c'était stress qui provoquait un peu ce genre de choses, qui n'est pas vrai. D'autres qui disaient, bah, ils ont consulté et ce qu'ils ont eu, c'est des doliprane, enfin, juste pour calmer les douleurs. Je sais qu'il y a eu peut-être un ou deux hôpitaux à Paris déjà qui ont commencé à avoir un service pour aider ces gens-là. Je ne sais pas exactement ce qu'ils font, jusqu'à quel point. Mais oui, je pense qu'à un moment donné, il y a besoin de prendre en charge un peu plus sérieusement ces personnes-là et voir exactement ce qui se passe au niveau du système nerveux. Et c'est ça le problème, c'est que pour l'instant, ils n'ont pas beaucoup d'idées. Il y a encore un article qui est sorti il y a 3 jours dans Nature qui résume très très bien, si vous voulez dire ça, c'est vraiment bien fait, qui résume très bien en disant, ben, voilà, on ne sait pas si c'est vraiment le fait que le virus traverse par exemple la barrière hématocéphalique et donc provoque vraiment une infection du système nerveux du cerveau, ou c'est justement le fait que ça traverse et que ça crée une réaction immunitaire, c'est la réaction immunitaire qui crée l'inflammation, et ces symptômes-là sont dus à l'inflammation. Probablement oui, et probablement peut-être les deux. Donc ça, c'est des choses à voir, mais c'est vrai que nous, moi, ce que je veux faire avec ces personnes, c'est ça, c'est de faire en sorte que le système nerveux soit un peu plus performant et qu'on puisse travailler sur le système nerveux pour que ça travaille sur le système pour que ça diminue un peu l'inflammation. Donc de jouer un peu sur différents facteurs et de faire en sorte qu'ils aient moins les symptômes.
Est-ce qu'il ne faudrait pas, pour que ces patients ne se retrouvent pas tout seuls à vivre un parcours du combattant pour être aidés, est-ce qu'il ne faudrait pas, vous disiez, oui, que tout le monde se mette en commun, qu'il y ait une sorte de protocole, qu'il y ait une sorte de liste des symptômes comme ils le réclament? Qu'est-ce qu'il faudrait faire d'après vous pour qu'ils soient mieux entourés, mieux suivis?
C'est une question de santé publique.
Je pense pas que je suis qualifié. Non, en tant que praticien, vous dites, vous, votre expérience, vous avez pris à bras le corps le problème, mais de vous-même, de votre propre...
Oui, mais de toute façon, on a une approche qui est très très différente. C'est-à-dire très souvent, de toute façon, les patients qu'on reçoit, comme pareil, les patients que je reçois pour des migraines, pour des maux de tête, pour des vertiges, etc. Souvent, il y a une approche qui est symptomatique en médecine, qui est de dire, ben voilà, vous prenez tel médicament, on sait que ça marche pour une migraine, ça marche pas, on prend un peu plus fort. Si c'est pas hypertension, prenez tel médicament. Si c'est névralgie, prenez tel médicament, on fait une inflammation, etc. Donc très souvent, c'est basé sur le fait de travailler juste sur les symptômes. Et donc souvent on a une approche qui est un peu différente de dire pourquoi est-ce qu'il y a ces migraines, est-ce qu'il y a un rapport avec le système nerveux, est-ce qu'on peut faire quelque chose pour le système nerveux pour que ce soit un remède un peu différent. Dans ce cas-là, encore une fois, pour l'instant je pense qu'on est dans une approche où moi de mon côté j'essaie de faire symptomatique, mais de faire aussi en sorte que le système nerveux fonctionne mieux et que ça puisse mieux gérer, par exemple, l'inflammation au niveau du corps.
Oui, à votre sens, c'est l'analyse d'ailleurs du docteur parisien qui travaille à l'hôpital Foch sur une unité réhab Covid. Lui, il est chef du service de réadaptation fonctionnelle. Mmh. Donc, ils font réadaptation du cœur par des exercices. Ils remettent en place la masse musculaire en faisant des exercices physiques. Donc, il n'est pas du tout... Vous ne pensez pas que c'est quelque chose qui se soigne par des médicaments, a priori, justement?
Je ne pense pas. Je ne sais pas. Je pense que c'est une approche plutôt de rééducation. Après, c'est une rééducation, que ce soit du cœur, des muscles ou du système nerveux. Après, tout ça, c'est des choses à voir ou de faire en ensemble. Mais c'est vrai que beaucoup des gens que j'ai vus, ils ont les symptômes des personnes que je vois avec des problèmes de dysautonomie. Des personnes qui ont les symptômes de maladie de POTS, STOP en français. Et le syndrome de tachycardie orthostatique posturale.
Il faut parler en public. Hein.
Ouais. Non, en fait, c'est des gens qui font un petit mouvement. Il y en a certains, les gens que j'ai eu avec POTS, c'est des gens par exemple qui peuvent se relever, c'est des gens qui peuvent juste tourner la tête quand ils sont assis, ils peuvent manger ou ils peuvent aller aux toilettes et leur système nerveux n'arrive plus à gérer la circulation de sang, donc il n'y a pas assez de sang qui arrive vers le cerveau, et ils font des sortes d'infarctus, mais très très légers, donc ils peuvent avoir des convulsions, ils peuvent avoir des évanouissements, j'en avais qui s'évanouissaient 50 fois par jour. Et ce qu'on constate au niveau des signes, c'est qu'ils ont souvent une tension artérielle qui est très basse, et le pouls qui augmente de façon, qui remonte en faisant un petit mouvement. Et les personnes avec le Covid longue durée, je vois un peu ça sur presque tous ceux que j'ai vus qui ont eu le Covid, c'est-à-dire que déjà ils ont une tension basse, et le fait simplement de faire des mouvements, se relever, etc., leur rythme cardiaque augmente à 120, à 130, etc. Donc le système nerveux autonome est effectivement affecté, et là, oui, ça peut se rééduquer, c'est ce qu'on fait, on fait différentes choses pour rééduquer ça, mais ça peut se rééduquer, mais ça joue sur le cœur. Alors est-ce que c'est un problème du cœur, est-ce que c'est un problème du système nerveux? Moi je pars plutôt sur ce qui se passe au niveau du système nerveux, mais oui, le cœur et les muscles aussi devraient à un moment donné être rééduqués. Donc, et il n'y a pas de médicament pour ces problèmes de dysautonomie. Il y a des choses qui peuvent jouer sur le rythme cardiaque, mais ce n'est pas les traitements à longue durée. C'est vraiment très très symptomatique.
Et vous avez, sur les patients que vous suivez, vous avez des résultats? Vous avez observé des...
Alors, encore une fois, je n'en ai pas énormément, mais ceux avec qui on a commencé à travailler, alors c'est lent, c'est pas le coup de baguette magique, il n'y a rien d'extraordinaire qui peut se passer. Mais effectivement, c'est une rééducation. Et quand on fait de la rééducation, ils ont beaucoup moins les symptômes. Ils ont petit à petit moins les symptômes. Pour certains, beaucoup moins les symptômes. Pour certains, très, 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 très difficile. La personne dont vous parliez tout à l'heure, très, très, très lent. Mais à chaque fois, on voit qu'il y a un changement. C'est-à-dire, quand elle est là, parfois, même au niveau de son visage, on voit la différence entre l'effort, la fatigue, l'épuisement qui se lit sur son visage, et tout de suite après, il se dit j'arrive à faire, j'arrive à bouger un peu mieux, je suis beaucoup moins fatigué, etc. Donc, c'est toujours un peu ça la rééducation, c'est-à-dire quand on commence à travailler, il peut y avoir un mieux, ça revient un peu en arrière, et l'objectif, c'est à force de faire ça, de faire en sorte que ça change. Donc, pour certains, pareil comme pour toute rééducation, c'est plus rapide, pour d'autres, c'est beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile.
Est-ce que ce ne serait pas bien de faire du pluridisciplinaire? Je pense à cette patiente, peut-être qu'un peu de méditation, de relaxation, tout bêtement, parce que associé à ce que vous faites, associé à d'autres choses.
Bah, ça serait très bien. Après, encore une fois, en tant que chiropracteur, moi je suis dans un cabinet privé, je ne suis pas à l'hôpital, ça se fait dans les autres pays, hein. C'est-à-dire aux États-Unis, en Suisse, vous avez des unités de chiropraxie à l'hôpital, qui fait qu'il y a une approche qui est multidisciplinaire pour les patients, pour toutes sortes, que ce soit des douleurs, que ce soit d'autres choses. Effectivement, oui, en France, on n'en est pas là. Donc oui, ça serait super pour ces patients d'avoir justement un neurologue, un chiropracteur, un kiné, enfin, différentes personnes qui puissent travailler et qui puissent l'aider. Dans les centres où moi je travaillais avec des problèmes neuraux aux États-Unis, oui, c'est des patients qui venaient dans les cliniques pendant une semaine et ils étaient pris en charge par différentes personnes et ils étaient là pendant toute la semaine. Et la sortie à la fin de la semaine était très différente du début de la semaine. Okay.
Est-ce que vous voyez quelque chose à rajouter sur ce que vous faites dans votre cabinet?
Oui, en fait, ce qu'on fait, donc ce que moi je fais, la façon dont je suis ces patients, c'est de travailler sur différents aspects, comme je disais, c'est-à-dire qu'en tant que chiro, on va travailler au niveau de la colonne vertébrale pour faire en sorte qu'il y ait moins les irritations nerveuses, pour que le système nerveux soit un peu plus capable déjà de fonctionner. Ensuite, on a une approche où on va utiliser de la neurostimulation qui permet ça dépend de ce qu'on fait, ça dépend du patient, de stimuler certaines parties du système nerveux, c'est-à-dire c'est des parties au niveau du cerveau qui sont au niveau de jonction pontomédulaire, qui sont au niveau du tronc cérébral avec des nerfs crâniens qui permettent d'améliorer, de contrôler un peu mieux le système nerveux autonome. On fait aussi de la photobiomodulation qui permet de la lumière en dessous d'infrarouge qui permet en fait d'augmenter l'oxygénation au niveau des mitochondries, donc des créations d'ATP, donc c'est ça qui va jouer sur l'énergie. On fait des stimulations du nerf vague, etc. Donc c'est une approche où on veut voir, en fait, pareil comme beaucoup de patients que je vois, c'est pas simplement une seule chose qui va faire changer les choses, mais le système nerveux pour recevoir des informations, c'est multisensoriel, et on peut travailler au niveau proprioceptif, on peut travailler au niveau vestibulaire, on peut travailler au niveau oculomoteur, on peut travailler au niveau cérébelleux, et tout ça, ça permet de créer un changement et de renforcer le système.
Parce que tous ces symptômes, le cœur qui s'emballe, l'essoufflement, les douleurs dans la cage thoracique, quand il n'y a rien au scanner, rien sur les IRM, les bilans sont normaux, c'est quoi? C'est le système nerveux qui est aux manettes?
Et c'est ça, encore une fois, un peu la différence. C'est-à-dire que presque, encore une fois, pour beaucoup des patients que je vois qui ont des migraines, on leur a fait des scanners, on leur a fait des IRM, on leur a fait, ou des gens qui ont des vertiges, on dit, voilà, il n'y a rien dans votre tête, il n'y a pas de tumeur. Et ça, c'est encore une fois l'approche médicale qui est faite pour ça, c'est-à-dire c'est les urgences, c'est les personnes qui ont des gros problèmes. Mais quand c'est fonctionnel, il n'y a rien. Ça ne se voit pas sur les analyses, sur les examens, parce qu'il n'y a pas de pathologie, mais le système nerveux ne fonctionne pas comme ça devrait fonctionner. C'est-à-dire que, on va dire, le cerveau, le système nerveux, au lieu de fonctionner à 100%, il travaille à 60%. Donc, il y a des moments où ça peut très bien fonctionner. Et au moment des fatigues, au moment du stress, le système chute et ne contrôle plus rien, et c'est là où les symptômes remontent. Dans ces patients-là, c'est un peu ce système, c'est-à-dire qu'ils sont un peu à la limite. Donc il peut y avoir des moments où ils sont un peu au-dessus de la moyenne, et donc pas trop mal, et puis il y a d'autres moments où ça chute, où ils vont avoir pas mal de symptômes.
Alors ça, on peut travailler là-dessus, hein.
Ben, encore une fois, il faut rééduquer le système. Il faut arriver à faire en sorte que tout le système recommence à être un peu plus fort, pour pouvoir mieux gérer les informations, encore une fois, que ce soit le stress, que ce soit la fatigue, que ce soit autre chose. Mais la fatigue, c'est un de leurs gros problèmes. Et pour moi, c'est encore une fois très très lié à ce qui se passe au niveau du système nerveux autonome, c'est-à-dire que le fait de faire un petit mouvement ou faire 50 mètres, le système nerveux n'arrive plus à garder l'information, le sang dans le cerveau, ça descend dans les muscles, donc au lieu de pouvoir contrôler le cerveau, garder le sang dans le cerveau, comme ça ne se fait pas, le cerveau commande au cœur de battre très très vite pour pouvoir remonter le sang et l'oxygène vers le cerveau, et c'est pour ça que leur pouls commence à aller très très haut, et c'est ça qui les épuise. C'est-à-dire que si pour chaque mouvement vous avez le cœur qui commence à battre à 120, à la fin de la journée vous êtes épuisé, enfin dès le matin vous êtes épuisé, parce que quoi que vous fassiez, c'est beaucoup 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 de travail sur le cœur, sur les muscles, sur tout le corps.
Ah, je comprends, d'accord. Ah, c'est bien ça, c'est bien clair. Effectivement, je comprends bien. C'est pour ça qu'il y a les emballements du cœur, d'accord. Donc,
oui,
si on reprend les causes du truc, le cœur ne s'emballera plus.
Enfin, oui, encore une fois, moi, les personnes que j'ai eues.
C'est tâtonné, je comprends bien.
Ouais, c'est les personnes que j'ai eues avec POTS, c'est souvent ça, hein, comme je disais.
Je n'ai jamais entendu parler de ça. POTS.
Stop.
Ah, d'accord.
En français, c'est stop. En anglais, c'est POTS, POTS disease.
Ouais.
Et ça, c'est parmi dysautonomie. Et pareil, la personne dont je parle, elle a fait tous les cardiologues, plein de médecins, plein d'hôpitaux, etc. Moi, je l'ai mis aux États-Unis pour pouvoir trouver comment on peut travailler sur elle. Ouais. Et finalement, c'est un médecin, d'ailleurs, c'est un cardiologue à Pitié, qui a compris que c'était, enfin, quand je l'ai dit, c'est ça, c'est le seul cardiologue que j'ai vu qui connaissait POTS. Ouais. Et en fait, on est en communication d'ailleurs, et justement, ça c'est la personne à qui je veux envoyer un courrier en disant, j'ai l'impression de voir vraiment un peu la même sorte de...
Oui, ce qui m'a donné aussi, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas d'études prévues où on remonte. Il y a la Pitié, l'Hôtel Dieu qui a monté une étude sur les symptômes persistants qui s'appelle Cocorec. Mm-hmm. Mais je n'ai pas l'impression que, je crois qu'ils travaillent que sur leur établissement en fait. Mais il n'y a pas une saisie de données globale de tous les praticiens qui diraient justement comme vous, j'ai vu ça, hop, j'ai vu ça. Il n'y a pas un système d'alerte qui s'est mis en place. Et de remonter de data, quoi.
Il y a assez de enfin, il y a des études dans les autres pays qui, eux, ils ont regardé. Encore une fois, si vous lisez... vous avez été sur mon blog
Non, pas le blog, je suis allée sur votre site.
Alors, c'est sur le blog. En fait, il y a un étude que j'avais mis il y a un ou deux mois. C'était une étude qui disait à peu près ce qui se passait. Et là, il y a un article dans Nature avec des références sur deux, trois études qui ont été faites.
Parce que c'est un peu
abscond, alors ça, c'est un article. Ouais, c'est pas une étude. Ouais, mais il parle des études.
Ouais.
Attendez, où est-ce qu'il est? Je l'avais tout à l'heure. C'est ça. Donc c'est très très récent, mais justement, il explique très bien, un peu résumé de qu'est-ce qui s'est passé, mais comment est-ce qu'on a vu.
D'accord.
Et les quelques études qui ont été faites en Angleterre,
ils ont fait des études, hein.
C'est en Angleterre, qui montrent que c'est des gens qui ont. Alors malheureusement, c'est plus en fait.
Ouais.
Malheureusement, avec Madame Kettel, c'était un peu ça. C'est-à-dire qu'ils montrent que, comme je disais, il y a une atteinte du système nerveux, du cerveau, mais ils disent qu'il peut aussi y avoir une atteinte au niveau de la moelle épinière la myéline qui commence à se détruire. Et donc ça donne des symptômes comme sclérose en plaques. Et les choses qu'on voit sur Madame Cattes, Madame Burman en fait, c'est un peu ça. D'ailleurs, elle va faire un
tombe chaud, mais elle essaye, elle n'arrive pas à avoir de rendez-vous.
Voilà, ça c'est super aussi. Mais voilà, c'est que il peut y avoir.
C'est-à-dire qu'on aurait pu lui déclencher une sclérose ou c'est ce qu'elle avait déjà?
Alors, ils ne disent pas que c'est une sclérose, ils disent que c'est comme le myéline, la myéline est en train d'être abîmée, ça, les durées, ils ont un peu les mêmes choses que les sclérose en plaques. Et donc, dans ces cas-là, oui, c'est vraiment l'inflammation comme sclérose en plaques. Hein. J'ai des patients avec sclérose en plaques qui peuvent être aidés. Bon, après, quand les choses sont détruites, sont détruites, mais qui peuvent être aidés pour.
Et ça a été provoqué par le Covid. C'est une atteinte.
Ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des encéphalites, donc il peut y avoir l'inflammation du cerveau, et il peut y avoir encéphalomyélite qui va toucher au niveau de la moelle épinière et donc détruire un peu la myéline. Et pareil, d'autres exemples de Guillain-Barré, enfin des symptômes un peu comme Guillain-Barré, etc.
C'est super angoissant. Parce que là, pour l'instant, ce que j'ai entendu, c'est ça. Ouais.
C'est ça qui m'énerve parfois sur les forums, les gens qui sont contre les masques, etc. Peut-être ça marche pas, peut-être ça marche,
Il y a des gens pour qui, effectivement, c'est... Bon, elle a eu un Covid assez costaud, hein, cela dit. Hein. Elle était limite de s'étouffer.
Elle a eu un
degré un peu fort.
Oui.
C'est vrai que ceux qui ont des symptômes légers ou pas de symptômes du tout, ils prennent ça particulièrement, parce que pour eux, c'est rien, quoi.
Mais ça reste. Moi, j'avais un de mes patients, je sais pas pourquoi, il m'a parlé d'un truc, et... Pareil, hein, il disait, j'ai attrapé, c'est fini, c'est bon, je suis bien. Et juste, un truc qu'il m'a dit, ça m'a fait titer, donc j'ai essayé de voir s'il sentait, et là, il ne sentait pas. C'est vrai que c'est-à-dire, vous n'avez pas remarqué que je ne sentais plus. Donc en fait, on a travaillé un peu, on a stimulé, et effectivement, ça a récupéré assez rapidement.
Ouais.
Mais c'était très léger, c'était juste ça.
Mais
quand il y a ça, ça veut dire que les parties du cerveau, c'est ce qui montre, les parties du cerveau où l'information vient de la narine, est abîmée. C'est-à-dire que ce n'est pas le nerf ici même qui est abîmé, mais c'est l'interprétation du cerveau de ça.
Et ça ne se voit pas sur les IRM si vous dites que c'est abîmé, ça veut dire que c'est inflammé, c'est détruit.
Après, il y a l'IRM, il y a de tout. Hein.
Ouais.
Vous avez l'IRM normal qui va vous montrer, par exemple, s'il y a quelque chose qui est abîmé. Donc effectivement, ils ont vu qu'il y avait des changements même au niveau structure qui se voyaient sur une IRM normale. Après, c'est comme par exemple les enfants qu'on voit avec des problèmes de déficit d'attention, etc. L'IRM normal, souvent, il ne montre pas grand-chose.
D'accord.
Sauf si c'est un IRM qui est très, très... L'IRM, c'est pas juste l'IRM.
C'est, ouais.
Après, c'est tout le calcul qui fait qu'on accède à des informations beaucoup plus précises, etc. Ouais. Mais souvent, c'est l'IRM fonctionnel qui va permettre de voir est-ce que la structure est normale, mais fonctionnellement, ça ne fonctionne pas.
D'accord.
Ou ça fonctionne moins bien. Ouais. Ou ça ne connecte pas avec ça.
Ouais.
Donc, ils ont vu qu'il y avait... Aussi bien des problèmes fonctionnels qu'un problème structurel, c'est-à-dire que même, je pense même que c'était dans le sens où ils avaient vu que c'était, ces parties-là étaient plus gros.
D'accord.
Mais pareil, est-ce qu'il y a une étude qui est en France en place pour faire regarder ça? Je ne sais pas. Peut-être, hein, c'est tout le truc, c'est ça, c'est que. De toute façon, l'information en France, c'est
c'est un peu chacun dans son coin, non?
Oui, non, je veux dire, on ne peut pas se baser juste sur ce qui se passe en France.
Non.
Donc il y a plein de pays, il y a plein d'études,
c'est
publié, et il faut lire un peu l'ensemble des choses. Il y en a où les Français sont très très bons, il y a des choses où c'est pas leur fort.
Donc
il faut regarder vraiment sur le moment là où les études sont parues.
D'accord, mais je regarde ça. Okay. Bon. Très bien. Et ces patients, en fait, ils sont venus vous voir parce que de bouche à oreille ou...
Alors non, justement, comme moi, ça m'intéressait un peu cette histoire. Alors, en fait, je pense que j'ai vu un reportage et donc il parlait d'un...
Ça.
Allez.
Comment ils sont arrivés chez vous, parce que ça serait bien que d'autres praticiens, entre guillemets, suivent votre exemple. Alors, comment ils sont arrivés chez vous, ces
patients? En fait, j'ai vu un reportage qui parlait de justement des patients qui avaient des symptômes en continu. Et donc, comme c'est les symptômes, comme je disais, que je vois souvent au cabinet, donc je suis allé sur leur forum, j'ai regardé sur leur page réseaux sociaux. Et c'est là où, comme il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient de ça, quelque part, ça, c'est un peu énervant de dire que peut-être que je peux les aider, mais ils ne savent pas. Donc, je leur ai proposé de les voir, de voir quelques-uns, comme ça, juste gratuitement, pour voir si déjà je peux les aider. Et si je peux les aider, après, bon, voilà, le but, c'était de dire est-ce qu'on peut se mettre avec les hôpitaux et puis de voir si on peut lancer une étude, de voir si en ayant une approche un peu plus au niveau fonctionnel et au niveau rééducation, on peut faire ça pour plus de gens.
Et pour l'instant, la réponse des hôpitaux?
Je n'ai pas eu le temps de arriver jusque là. Comme le cabinet est déjà assez plein, j'ai pas eu. Mais bon.
Mais vous avez eu du succès avec votre appel.
Alors, encore une fois, j'ai pas pris plus que 4-5 personnes. Donc, parce que je n'ai pas la place, parce qu'encore une fois, il faut faire un examen. L'examen dure déjà parfois 3/4 d'heure, parfois 1 heure, 1 heure et demie, pour voir un peu tout ce qui se passe au niveau système vestibulaire, oculomoteur. Après, je pourrais vous montrer comment on fait tout ça. Mais donc, ça prend du temps. Encore une fois, le but, c'est pas de dire qu'il est patient, mais de dire est-ce que c'est possible de les aider. Et comme je disais, c'est possible, à mon avis, de les aider, de faire un programme de rééducation pour certains où ça peut être rapide ou plus facile, et pour d'autres un peu plus difficile, mais c'est toujours ça de pris, c'est-à-dire de dire qu'on les renforce, jusqu'au point où on peut arriver à peut-être les aider complètement, mais pas sûr, pas toujours sûr.
Vous n'êtes pas super optimiste?
Ah si, je suis optimiste pour la majorité des gens qu'on va pouvoir voir. Je pense que s'il y a une bonne sorte de rééducation qui est mise en place au niveau du système nerveux, on peut aider beaucoup de ces gens-là. Mais plus le temps passe, plus le système nerveux peut être abîmé. C'est-à-dire que si vous avez un problème neurologique qui est là depuis 3 mois, c'est plus facile à corriger que si c'est là depuis 1 an et demi. Donc le temps que les choses se mettent en place d'un point de vue administratif, dans les hôpitaux ou autres, il peut y avoir des gens qui peuvent avoir des séquelles un peu plus prononcées. Donc c'est ça qui peut être difficile. C'est comme tout. Les problèmes, quand c'est pris au début, c'est facile. Quand c'est pris longtemps après, c'est beaucoup plus difficile. Peut-être impossible, mais la majorité peuvent être aidés sans trop de difficultés. Mais il faut pouvoir le mettre en place.
Super. Bon, c'est bon pour moi, j'ai largement mangé trop même. Évidemment. Ok, super.
Bon, je vous montre un peu si vous voulez.